Vous écoutez On lit pour vous.
La liberté de diluer le vote noir. Un texte de Richard Etu paru le 4 mai 2026 dans la presse. New York. Un triomphe pour la liberté aussi immense que n'importe quelle victoire remportée sur un champ de bataille. Le 6 août 1965, le président Lyndon Johnson a lancé cette phrase mémorable en signant une des lois les plus importantes de l'histoire américaine, le Voting Rights Act, qui visait à interdire la discrimination raciale dans l'exercice du droit de vote. Adopté quelques mois après un épisode particulièrement sanglant du mouvement des droits civiques, la marche de Selma à Montgomery, en Alabama, cette loi n'a pas seulement permis aux Noirs des États du Sud de voter en plus grand nombre, elle leur a également accordé la possibilité d'être représentés. Et c'est précisément cette possibilité qui est menacée ou éliminée dans ces mêmes États du Sud après l'arrêt de la Cour suprême Louisiane C. Calais, rendu mercredi dernier à 6-3 par sa majorité conservatrice. Salué par les groupes conservateurs et les dirigeants républicains, décrié par de nombreux juristes, démocrates et héritiers de Martin Luther King Jr., cet arrêt est également un triomphe en soi. Celui du président de la Cour suprême, John Roberts, de son auteur Samuel Alito et d'une autre idée de la liberté. Une aversion commune. John Roberts et Samuel Alito ont fait leur entrée à la Cour suprême à 4 mois d'intervalle il y a 20 ans. Ils partageaient déjà depuis des décennies une aversion pour le Voting Rights Act. Le juge Roberts avait exprimé cette hostilité dans de nombreuses notes rédigées à l'époque où il travaillait au sein du département de la justice de Ronald Reagan au début des années 1980. Il avançait alors l'argument selon lequel les efforts pour combattre la discrimination raciale contre les électeurs issus des minorités étaient en eux-mêmes discriminatoires. Le juge Alito, lui, s'intéressait depuis ses années à l'université Princeton aux écrits de l'ancien juge de la Cour suprême, John Marshall Harlan. Ce dernier a laissé à la postérité le concept d'une constitution aveugle à la race qui ne connaît ni ne tolère les classes parmi les citoyens. Cette idée, formulée en 1896 dans une célèbre opinion dissidente, allait contribuer au démantèlement de la ségrégation raciale dans les années 1950 et 1960. Or, de nos jours, les conservateurs s'en servent pour s'attaquer aux lois et aux mesures adoptées pour combattre la ségrégation raciale. Et cela inclut le Voting Rights Act, qui agonise après les assauts répétés des juges Roberts et Alito. La réplique de RBG. John Roberts a porté le premier coup en signant l'arrêt Shelby County C. Alder, rendu à 5-4 le 25 juin 2013. Par cette décision, le président de la Cour suprême et ses collègues de la majorité conservatrice ont abattu un pilier majeur du Voting Rights Act. Il s'agissait de l'article 5, qui obligeait les États ayant une histoire de ségrégation raciale à obtenir une approbation fédérale avant de changer leur loi électorale. Le juge Roberts avait justifié cette décision en faisant valoir que son pays avait changé sur le plan des relations raciales. En dénonçant l'abandon de l'article 5, la juge Ruth Bader Ginsburg avait répliqué « C'est comme jeter son parapluie en pleine pluie parce qu'on n'est pas mouillé. » Dans les années qui ont suivi, plusieurs États républicains ont adopté des lois qui ont restreint l'accès au vote. Mercredi, le 29 avril 2026, Samuel Alito s'est attaqué à l'autre pilier du Voting Rights Act, soit l'article 2, qui touche notamment au découpage des circonscriptions électorales. Dans un premier temps, le juge et ses collègues conservateurs ont annulé la carte électorale de la Louisiane. Pourquoi? Parce que, selon le juge Alito, cette carte se fonde sur des critères raciaux pour créer une deuxième circonscription susceptible de permettre aux Noirs de l'État d'élire un des leurs à la Chambre des représentants. Le monde à l'envers. Selon Samuel Alito, ces critères violent le 14e amendement de la Constitution qui garantit l'égalité devant la loi. C'est le monde à l'envers si l'on considère que cet amendement a été adopté précisément pour garantir l'égalité des anciens esclaves noirs et de leurs descendants. Mais le juge Alito ne s'est pas arrêté là. Comme John Roberts dans Shelby County See Older, il a noté dans sa décision les progrès réalisés par la société américaine sur le plan racial. Aussi a-t-il jugé approprié d'apporter des ajustements à l'article 2 du Voting Rights Act. Il a décrété notamment qu'il ne suffit plus de démontrer les effets discriminatoires d'une carte électorale pour la contester devant les tribunaux, comme le stipule pourtant une révision du Voting Rights Act adoptée par le Congrès en 1982. Il faut désormais prouver qu'une carte électorale a été créée avec une intention discriminatoire, ce qui est beaucoup plus difficile, voire impossible. Résultat, dans un pays où le découpage électoral à des fins partisanes est permis, cet ajustement permettra aux républicains de diluer le vote noir et démocrate au point d'éliminer entre 15 et 20 circonscriptions où des électeurs noirs peuvent élire un des leurs à la Chambre des représentants. Ainsi, certains États du Sud n'auront plus que des élus blancs et républicains à la Chambre. C'est la liberté que viennent de leur accorder John Roberts, Samuel Alito et leurs autres collègues nommés par des présidents du parti d'Abraham Lincoln. Quel impact sur les élections de mi-mandat? Au moins 3 États du Sud ont indiqué leur intention de changer leur carte électorale à temps pour les élections de mi-mandat dans la foulée de l'arrêt Louisiane C. Calais. Il s'agit de la Louisiane, du Tennessee et de l'Alabama. Si les républicains de ces États atteignent leur objectif, ils pourraient donner à leur parti entre 3 et 5 sièges supplémentaires à la Chambre des représentants en vue du scrutin de novembre. Des sièges qui sont aujourd'hui occupés par des représentants démocrates noirs. Alors que les démocrates pourraient réaliser un gain net d'entre 15 et 25 sièges en novembre, ces nouvelles cartes ne devraient pas jouer un rôle déterminant dans l'issue du scrutin. Il pourrait en être autrement en 2028 ou en 2030. D'ici là, les États républicains qui le voudront pourront changer leur carte électorale et augmenter le nombre de leurs sièges à la Chambre. Les États démocrates voudront évidemment leur donner la réplique, contribuant à polariser encore davantage la vie politique américaine. La solution à cette fuite en avant serait l'adoption d'une loi nationale interdisant le découpage électoral à des fins partisanes. Les démocrates ont proposé cette idée dans le cadre d'une réforme électorale en 2021. Les républicains l'ont rejetée à l'unanimité. C'était « La liberté de diluer le vote noir », un texte de Richard Etu paru le 4 mai 2026 dans La Presse.
Gare à la rigidité alimentaire, dit une chercheuse. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 mai 2026 dans La Presse. Les gens en surpoids peuvent réduire leurs problèmes de santé en misant sur une alimentation saine, mais sans s'imposer de règles rigides. Ceux qui ont des règles rigides ont même plus de problèmes de santé que ceux qui mangent ce que bon leur semble. Avoir des règles rigides en alimentation amène beaucoup de stress, explique Simone Lemieux, nutritionniste à l'Université Laval, qui présentera ses travaux jeudi au congrès de l'ACFAS à Trois-Rivières. Ça amène des conséquences négatives sur la santé. La chercheuse de Québec a analysé les habitudes alimentaires de 614 Québécois de 5 régions qui avaient un surplus de poids, soit un indice de masse corporelle, IMC, de plus de 25. Elle a divisé ses habitudes en trois groupes, selon qu'il mangeait plus de bons aliments et moins de mauvais aliments, s'il se fixait ou non des règles, et les motivations de leurs choix alimentaires. Les membres du groupe qui avaient l'alimentation la plus saine, les conscients, avaient des règles qu'ils suivaient généralement, mais pas toujours, et avaient une motivation interne pour leurs règles alimentaires. Ils avaient des comportements en accord avec leurs autres objectifs de vie pour augmenter leur bien-être, dit Madame Lemieux. Ils avaient peu d'interdits alimentaires. À l'opposé, les sans souci n'avaient aucune règle alimentaire et aussi la moins bonne alimentation des trois groupes. Ils avaient une alimentation intuitive, sans désir de contrôler leur poids, dit Madame Lemieux. Mais ils avaient aussi peu de désinhibition où on mange beaucoup pour des raisons émotives. Entre les deux, sur le plan de la qualité de l'alimentation, se trouvaient les mangeurs externes. Ils mangeaient avec leur tête, avec beaucoup de règles très rigides, explique Madame Lemieux. Ils se disaient « Il faut que je mange bien, sinon je vais me trouver poche ». Mais des fois, l'élastique cassait et ils surconsommaient en lien avec des émotions ou des situations comme des fêtes où il y avait de la désinhibition. Les conscients avaient le plus faible surpoids et le plus faible taux, 20 % de syndrome métabolique, un ensemble de problèmes de santé liés à l'obésité. Surprise! Au deuxième rang des problèmes de santé venaient les sans souci. Le tiers d'entre eux avait un syndrome métabolique, contre 37 % des mangeurs externes. Le syndrome métabolique se définit par la présence de trois des facteurs suivants. Tour de taille élevé, tension artérielle élevée, glucose sanguin élevé, mauvais cholestérol élevé et bon cholestérol faible. Au Canada, 25 % de la population présente un tel syndrome métabolique. De plus, malgré leur alimentation relativement saine, les mangeurs externes avaient le pire IMC moyen, 32,7 contre 29,4 pour les conscients et 31,2 pour les sans souci. Par ailleurs, les conscients faisaient un peu plus d'exercice, mais il n'y avait pas de différence entre les sans souci et les mangeurs externes. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre les groupes sur le plan des calories ingérées. En d'autres mots, mieux vaut avoir une bonne alimentation, mais si on n'a pas la motivation pour que ce soit agréable, mieux vaut ne pas se faire de mauvais sang, selon Madame Lemieux. Hommes et femmes. Une statistique détonnait quand on comparait les trois groupes. Les hommes représentaient 4 sans souci sur 5 et les femmes 3 mangeurs externes sur 5. Les conscients avaient un nombre équivalent de représentants des deux sexes. Il y avait aussi des différences moins importantes sur le plan de l'éducation et de l'âge. Les sans souci étaient les moins éduqués, 32 % ayant un diplôme universitaire contre 44 % pour les deux autres groupes. Et les conscients étaient légèrement plus âgés alors que les mangeurs externes étaient légèrement plus jeunes. L'échantillon n'était pas assez important pour faire des analyses distinguant les gens en surpoids et les obèses, avec un IMC supérieur à 30. Parmi l'échantillon, 45 % étaient obèses et l'IMC moyen était de 30,9. Quel impact aura sur le comportement alimentaire des personnes obèses la vague des médicaments agonistes du GLP-1 comme Ozempic? Je suis à peu près certaine que ça modifie l'alimentation, dit Madame Lemieux. Les pensées intrusives en alimentation ne sont plus vraiment là quand on prend ces médicaments. Mais on ne sait pas non plus quel impact a sur l'alimentation intuitive leur altération des signaux de la faim et de la satiété. il faut plus d'études sur le genre d'alimentation qu'ont les gens qui prennent ces médicaments. C'était « Gare à la rigidité alimentaire, dit une chercheuse », un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 mai 2026 dans La Presse.
Nordastello, la firme qui veut mener la décarbonation industrielle. Un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse. Après avoir tourné la page de Roche en 2022, la firme de génie conseil Nordastello s'est réinventée avec une grande ambition. Devenir le leader mondial en décarbonation industrielle et en productivité durable. Une stratégie qui repose sur des gestes concrets, mais qui se déploie dans un contexte moins favorable. Devenir un leader mondial en décarbonation industrielle ne se fait pas du jour au lendemain. Chez Nordastello, cette ambition guide les décisions depuis 2019. La première étape, ça a été d'y croire, raconte le PDG Alex Brisson. Puis, de faire en sorte que nos gens y croient aussi. Dans l'industrie, la solution consiste encore trop souvent à démolir pour repartir à neuf. Alex Brisson donne l'exemple du pont Champlain. Le pont Champlain, dit-il, on ne l'a pas entretenu. On a été obligé de le prendre, de le jeter aux poubelles, puis d'en construire un nouveau. Imagine le dommage au niveau planétaire. C'est autour de ce constat que Nordastello a bâti son modèle d'affaires à impact. En misant sur la maintenance préventive et prédictive des infrastructures existantes, l'entreprise certifiée B Corp cherche à prolonger leur durée de vie. Si je suis capable de prolonger un actif de 5, 10 ou 15 ans, je suis capable de traduire ça en consommation d'énergie et en tonnes de CO2 évitées, explique le patron. Chaque projet intègre désormais des indicateurs environnementaux précis. On arrive avec de la donnée normée, qui n'est pas contestable, précise-t-il, une donnée que l'entreprise compte bien exploiter et, ultimement, monétiser. Avancer progressivement. La firme construit sa crédibilité projet par projet. Elle travaille notamment avec Rio Tinto sur des projets pilotes en décarbonation industrielle et avec BC Hydro sur la technologie V2G, qui permet aux véhicules électriques de redistribuer de l'énergie au réseau. Elle structure sa croissance autour de plans triennaux et d'objectifs annuels. On l'attaque en morceaux, résume Alex Brisson. Nordastello commence aussi à intégrer l'état de santé et la durabilité des actifs dans les revues diligentes d'acquisition, à une époque où le reprenariat a la cote. Cet angle, encore peu exploité, l'amène à travailler avec les banques et d'autres partenaires financiers. Le contexte n'est pas idéal. Le désengagement climatique de l'administration Trump a créé un effet d'entraînement. Certaines entreprises revoient leurs objectifs environnementaux, d'autres déplacent leurs priorités. Le gouvernement du Québec n'est pas épargné par la critique d'Alex Brisson. Malheureusement, il y a un recul. Lâche celui qui est en nomination dans la catégorie « Grande entreprise au prix PDG vert ». Malgré tout, Nordastello maintient le cap. On prend nos engagements par étapes. On est totalement transparent et on ne recule sur rien. La firme collabore avec des clients et des partenaires qui continuent d'y croire, comme la Caisse, qui est actionnaire minoritaire de l'entreprise depuis mars 2025. Des retombées pour le Québec. Si la stratégie fonctionne, les retombées pourraient dépasser largement l'entreprise. Nordastello développe au Québec une expertise en décarbonation industrielle qu'elle pourra exporter partout dans le monde. Quand on a pris cette orientation, on était précurseur, évoque M. Brisson. Aujourd'hui, on se retrouve dans une niche où il y a peu de compétition. La firme attire également des talents qui souhaitent contribuer à un projet de société porteur de sens. Les gens viennent travailler chez nous à cause de ça,
souligne le dirigeant. Grand-père depuis 2 ans et demi, Alex Brisson ne cache pas ce qui l'anime derrière les chiffres. On ne veut pas être la meilleure entreprise au monde, on veut être la meilleure entreprise pour le monde, résume le PDG. Reste à voir si cette vision saura s'imposer à l'échelle internationale. Nordastello, en bref, fondé en 1963 sous le nom de Roche. Siège social à Québec, près de 900 employés, revenu annuel de 150 millions de dollars, des projets réalisés dans plus de 50 pays, certifié B Corp depuis 2022. C'est la première grande firme d'ingénierie canadienne à obtenir cette certification. C'était Nordastello, la firme qui veut mener la décarbonation industrielle, un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Le calcul de l'indice UV. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er mai 2026 dans La Presse. L'indice UV est le fruit d'un calcul complexe. L'équation doit constamment être ajustée en fonction de la pollution et des conditions atmosphériques. L'indice UV est une invention canadienne, indique Caroline Boudou, spécialiste de l'optique à Polytechnique Montréal. Il tient compte de plusieurs facteurs qui influencent la quantité de rayons ultraviolets, UV, reçus par les personnes. Chaque jour, un réseau de spectrophotomètres prend des mesures qui sont utilisées pour corriger les constantes de l'équation du calcul de l'UV. Les rayons ultraviolets du soleil sont les responsables des coups de soleil. Ils sont aussi la cause de plus des 3/4 des cancers de la peau. L'indice UV, inventé en 1992 par Environnement Canada, va de 0 à 20 environ, le plus élevé correspondant au risque le plus grand de coups de soleil et de cancer. L'équation de calcul de l'indice UV tient compte de la latitude, de la saison et des polluants et autres caractéristiques de l'atmosphère, dit Mme Boudou. Si le soleil arrive sur le sol avec un angle, il traverse davantage d'atmosphère et donc les UV ont plus de temps pour être absorbés. Les polluants, par exemple, la fumée des incendies de forêt, peuvent aussi augmenter l'absorption et la diffusion des UV par l'atmosphère, ce qui diminue l'exposition aux UV au sol. Les spectrophotomètres sont des appareils très coûteux qui mesurent précisément la quantité de lumière à chaque longueur d'onde, notamment dans l'ultraviolet. Des longueurs d'onde plus petites et plus énergétiques. Le réseau canadien, qui sert à corriger l'équation des UV, compte 8 spectrophotomètres, dont un à Montréal. Neige et longitude. L'indice UV tient aussi compte de la longitude où se trouve une personne. Comme l'indice UV correspond à la quantité d'UV reçue à midi, une personne qui est à l'extrême occidental d'un fuseau horaire aura le zénith du soleil plus tôt qu'une personne à l'extrême oriental. Mais la différence n'est pas énorme. Je ne pense pas qu'on doit changer notre décision de mettre de la crème solaire si on sort dehors à 12h15 ou 12h15, dit Mme Boudou. Aussi, plus on est au nord,
moins le soleil est fort. En Arctique, le minimum de l'indice UV est de 1 en hiver et le maximum de 3 en été, note Mme Boudou. Il atteint 11,5 dans le sud du Texas et jusqu'à 20 dans les sommets de Hawaï, selon Environnement Canada. Il y a des rapports d'indice UV dépassant 25, mais ils sont controversés, dit Mme Boudou. Ces indices dépassant 25 sont notamment basés sur des estimations par satellite des UV que reçoivent les hauts plateaux péruviens et n'ont pas été confirmés par des mesures au sol. La neige est l'un des facteurs qui gonfle le plus l'indice UV. Plus le sol réfléchit le soleil, plus il envoie des UV vers les humains, dit Mme Boudou. Un sol complètement couvert de neige peut faire bondir l'indice UV de plus du tiers. En comparaison, les nuages ne diminuent que de quelques points de pourcentage l'indice UV. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre de la crème, même si c'est nuageux, dit Mme Boudou. La pluie ne diminue pas non plus beaucoup l'indice UV, mais il est rare qu'on passe beaucoup de temps dehors quand il pleut. Les ultraviolets sont classés en trois groupes selon leur longueur d'onde, A, B et C. Ce sont les UVB qui sont les plus dangereux. Et parmi les UVB, ce sont ceux qui ont la longueur d'onde la plus petite qui sont les plus dangereux, parce qu'ils contiennent plus d'énergie. L'équation de l'indice UV tient compte de la dangerosité plus grande des UVB à la longueur d'onde la plus petite. En savoir plus, Société canadienne du cancer. 10 800, nombre de Canadiens qui reçoivent chaque année un diagnostic de mélanome. 1 250, nombre de Canadiens qui meurent chaque année d'un mélanome. C'était le calcul de l'indice UV, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er mai 2026 dans La Presse.